My gang will get you.
Les enfants du Nouveau Monde, une émission de Céline Elodie. Même si on nous en parle si peu, le monde est rempli de belles choses. Des humains en marche, des initiatives pleines de bon sens et d'humanité. Nous sommes tous une étincelle de cette transformation. Avec les enfants du Nouveau Monde, partons à la rencontre des terriens d'ici et des humains de là-bas. Des enfants de la Terre, qui aiment notre planète, qui croient en leurs rêves et qui créent un monde meilleur dans leurs actions quotidiennes. Aimer l'humain, humer l'humus, humiliter avec humilité. Bienvenue sur Terre, enfants du Nouveau Monde.
Hey man, you want girls? I show you a good time. This place has everything. Come on, I show you.
Aujourd'hui, dans Les Enfants du Nouveau Monde, je vais rencontrer Thomas Marsili, un berger nomade. Justement, nous sommes dans les vignes où paissent ses moutons, et le voilà qui arrive. Bonjour Thomas.
Bonjour.
Bienvenue chez toi pour le moment.
Oui, bienvenue à vous tous.
Merci. Alors,
donc on arrive à ce que j'appelle mon parc de nuit, où mes bêtes sont parquées sur une friche et elles y restent une petite semaine, ça dépend des terrains, et dans la journée je les garde dans les parcelles environnantes.
Mmh. Et là c'est temporaire.
Là, on est là, voilà, maximum, pas plus d'une semaine en général. Je bouge, mais je fais jamais des très gros tronçons. Enfin, en général, je me balade de secteur en secteur, et sur chaque secteur j'ai mes petits parcs et je me balade autour.
Mmh. Et c'est quand même un périmètre assez défini. T'es quand même, on va dire, plutôt
oui,
dans cette région.
Je slalome autour de 5-6 communes de la mi-septembre à la mi-juin.
Mmh. Bah, on va y aller.
Descendre mon chien, il descend. Voilà. C'est mon ouvrier, partenaire, esclave, collègue.
Ami.
Ami, ouais, il vaut mieux, sinon. Enfin, pas toujours.
Elle a l'air pressée d'aller travailler.
Ils sont passionnés, c'est ce qu'on leur demande en même temps. Mais ils sont passionnés de ça et on leur suscite cette passion. Mais si on les emmène pas, quand le troupeau est à la montagne 3 mois d'été, ils sont malheureux comme tous mes chiens. Mmh. Il y a toujours quelques bêtes qui restent en bas, mais beaucoup moins de travail pour eux. Donc là, on joue sur leur envie d'y aller.
Du coup, tu dis que tes moutons montent en estive, c'est ça?
Oui.
L'été, ils partent en montagne?
Oui, je garde ce système traditionnel qui me permet moi de me dégager du temps pour faire autre chose. Et puis pour eux c'est bien mieux d'être en altitude où la température sera un peu plus fraîche, mmh. où l'herbe sera peut-être un peu plus verte que de rester dans cette zone ici. Puis après en été on est sur une région très très touristique, donc je slalomerai trop de touristes pour pouvoir être serein et que mon troupeau soit tranquille.
Alors l'idée principalement c'est d'une collaboration avec les viticulteurs et de faire paître tes moutons dans les vignes pour limiter le travail de désherbage.
Alors l'idée première de mon installation c'était ça, donc tant que je peux les faire paître de l'automne à maintenant à peu près, à mars, elles vont passer dans les vignes un maximum. Et puis donc ça va dépendre de l'état du sol, des vignes et des volontés différentes de chaque vigneron. Et autour de ça, je vais faire les friches, les bois, les prairies de fauche aussi en hiver. Ça m'est même arrivé des jardins de particuliers, enfin tout ce qui. Partout où il y a de l'herbe qui est susceptible d'être bio, j'y passe.
Donc le concept du berger nomade, c'est quand même que tu te déplaces avec ton troupeau et tes filets. Et à chaque fois, tu leur crées un nouveau parc.
Oui, les filets me donnent cette possibilité d'être très mobile, de pouvoir poser mon filet à peu près partout. et de pouvoir les monter aussi vite que je les démonte. Et du coup, le fait qu'on peut être facilement nomade. Après, être nomade, c'est au départ, c'est subi. C'est parce que j'ai pas les moyens d'avoir des terres à moi ou d'avoir une ferme ou une bergerie quelconque que je me suis rabattu sur cette façon de travailler là.
Ah oui ?
Ah oui, vraiment. Après, le troupeau, il trouve vraiment son compte et moi aussi parce que ça nous oblige et ça nous donne accès à une très grande diversité. Et on peut aller chercher une très grande diversité dans nos régions. Mais au départ, si j'avais pu avoir des terres d'un seul tenant et garder sur une seule montagne, j'aurais choisi ça, qui est pour moi...
Beaucoup plus simple.
Oui, la facilité, oui, oui. Mmh. Et moins précaire, parce que mine de rien, je pose mon troupeau tous les soirs à un endroit, je n'y reste pas. Il est plus ou moins éloigné de là où je vis, donc je suis soumis au bon vouloir des gens, de la nature. Et...
Oui, c'est une position de vulnérabilité.
Oui, très fort, oui. On va enjamber le filet, j'ai coupé le jus. Parce que là, elles croient qu'on va sortir et il est un peu tôt déjà.
Elles nous suivent, elles marchent à notre cadence.
Nous y arriver ou qu'elles nous entendent arriver avec la voiture. En général, elles sont au garde à vous.
Donc elles sont contentes de balader, elles.
Ah bah elles ont pris le rythme. Ah oui, oui, content je saurais pas dire, mais en tout cas, elles y trouvent leur compte, ouais. Et puis elles ont pris ce petit rythme. Yin, viens. Saute à droite.
Bonjour mesdames, mesdemoiselles les brebis. Et messieurs ou pas ?
Alors non, il n'y a pas de bélier. Il y a des moutons, donc des mâles castrés. Moi, ouais. C'est ma définition.
Ouais.
Et puis après, il y a les agneaux qui sont pas encore monsieur, mais qui arrivent bientôt à être monsieur. Donc c'est ceux qui ont la petite boucle bleue. J'ai commencé à boucler, qui seront prêts pour Pâques.
Ils seront prêts à manger, tu veux dire ?
Ouais. Je suis un troupeau allaitant, dit allaitant, donc à viande. Et les agneaux restent sous leur mère jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on les emmène à l'abattoir.
Mmh.
Et du coup, mon système, bah, pour l'instant, je garde toutes les femelles ou je les revends pour la reproduction et je fais abattre les mâles. Donc je vis grâce aux mâles.
Tu vis grâce
aux mâles. Enfin, je vis grâce aux mâles. C'est eux qui partent en viande.
Pour la viande.
Voilà.
Ouais. Et du coup, pour l'instant, tu gardes toutes les femelles, donc ton troupeau ne cesse de s'agrandir.
Exactement. J'ai commencé avec 100 brebis et quelques agnelles, ce qui paraît peut-être beaucoup, mais ce qui n'est absolument pas.
Ah bon ?
Ça ne nous permet pas du tout d'en vivre.
Ah oui, d'accord.
Donc il faut au moins que j'arrive à doubler le nombre de brebis. Donc à cette période de l'année, c'est doubler le nombre de... Ah, il y a une voiture, alors on va enlever le chien. Yin, viens. Viens. Elle est sur le qui-vive, elle attend le moindre mot de ma part pour y aller. Mais elle est déjà dans son élément.
Il ne faut pas faire de lapsus dans ces cas-là.
Ah oui, non, mais des fois, quand les gens s'arrêtent en voiture, me demandent les directions, si je commence à donner les directions, j'ai le chien qui va avec. Donc, non, fais attention.
Ça doit être assez drôle.
Voilà mon mouton.
Ça, c'est ton mouton favori, oui, je vois qu'il vient sniffer ma sacoche, rechercher des caresses.
Oui, lui, il est collant comme pas possible. C'est ce qu'on lui demande de faire, c'est son rôle.
Alors, c'est-à-dire ?
Bah, ça veut dire qu'il va me suivre partout et du coup faire suivre le reste du groupe.
Ah ok, d'accord.
Dans des situations, des fois il me sort de fourrés épais où je me dis comment ça se fait qu'elle me suive, mais c'est en partie grâce à ces moutons qu'on a devant. Et puis...
D'accord, donc c'est un mâle castré.
Oui, qui a été nourri au biberon.
Ah c'est ça le secret.
Oui, oui, il y a des petites...
C'est ça le secret, il a été cajolé, câliné.
On l'a domestiqué.
Voilà.
Et du coup, puis il est très bien pour quand les gens viennent me voir, ou les enfants, ils sont très contents de pouvoir...
Lui grimper sur le dos.
Ça leur arrive, mais, mais surtout de le caresser, ouais.
Oui.
Toucher cette laine.
Oui, ils ont une belle laine, là.
Et ben voilà, on est un troupeau extérieur, donc la laine est bien blanche, ouais. Il n'y a pas de doute, on a des lavages.
Ah oui, tu veux dire que du coup, ils se traînent pas dans leur fourrage
Bah, ils n'ont pas la paille qui va rester accrochée, voilà. Et les déjections, parce que aussi je bouge régulièrement. Mm-hmm. Mais dès qu'il pleut, même si on est dans des bois, ils se prennent la pluie, donc on est rincé régulièrement.
Ils sont lavés naturellement.
Oui, lavage à froid.
Donc, ce qui est bon pour la laine.
Ah oui, oui, là, mais on a une très bonne qualité de laine. C'est pour ça qu'on peut la faire transformer au sein d'un collectif qui s'appelle Rayolaine. Et du coup, on arrive à avoir des super beaux produits.
Ah, d'accord. Donc, tu valorises aussi la laine après les tontes.
Oui,
c'est super,
c'est très nouveau.
Tout à fait, parce que moi j'entendais dire que la filière laine en France avait complètement périclité.
Oui, c'est vrai.
Enfin, il y a eu quelques.
Il y a des initiatives, oui.
Très sporadiques comme ça, à droite à gauche.
Voilà, ça reste marginal par rapport au potentiel qu'on aurait de fabrication en France.
C'est assez terrible d'imaginer que la 90 ou 99% de la laine en France est brûlée ou jetée, oui. Alors que quand même il faut procéder à la tonte.
Oui, ouais. Oui, de toute façon on les tond et au mieux elles partaient dans l'isolation. Donc oui, c'était un peu triste quand même de se dire qu'à la base, on a domestiqué, notre histoire fait qu'on a domestiqué le mouton pour sa laine. Le lait et la viande est venu largement plus tard. On cherchait les qualités de sa laine au départ. Aujourd'hui, et puis du coup, on n'a plus sélectionné vers ça non plus. Donc oui. On a potentiellement perdu une grande qualité.
Et alors là, tu disais que justement, la laine de tes moutons a une bonne qualité.
Bah, la laine de la race que je cherchais à avoir, la race Rayol, a des bonnes qualités. Et puis le système qu'on leur fait faire, on n'est pas intensif, on est extensif, ça veut dire qu'on est un maximum à l'extérieur.
Oui.
Et on peut généraliser ça à une bonne partie des éleveurs des Cévennes et de ceux qui ont ces traces-là et des garrigues. Parce qu'on n'est pas sur des grandes terres où on peut faire du céréal ou du foin pour les nourrir dans des bâtiments. Donc on les sort dans les bois, etc. autour. Ce qui fait que les animaux, ils ont quand même une qualité de vie, pour moi, intéressante. Et c'est traduit dans la qualité des produits de tout genre. Que ce soit de la laine à la viande.
Et alors, pour terminer sur la filière laine, du coup, qu'est-ce qui se passe? Comment tu fais pour valoriser cette laine? Soit c'est récupérer la peau après l'abattage pour certains, parce que maintenant,
alors,
ça se fait, les peaux de mouton.
Oui, on y travaille aussi, mais c'est un autre projet.
D'accord.
Mais c'est donc quelque chose que je veux faire, que j'essaie de mettre en place avec d'autres,
ouais.
Qu'on fera.
Ouais. Là, c'est juste récupérer la laine.
Pour l'instant, voilà, c'est après la tonte, trier la laine, la récupérer. La mutualiser à plusieurs parce qu'il y a des petits artisans, mais il leur faut quand même une sacrée quantité avant de pouvoir rentrer dans leur machine. Mmh. Donc on mutualise tout ça à presque 30 éleveurs. Et une fois qu'on a tous tondu, trié nos laines par qualité et par taille, et ben on envoie tout ça au lavage. Et puis après, on prend les décisions. Qu'est-ce qu'on fait? Du fil? Est-ce qu'on fait du feutre? Est-ce qu'on fait...
Parce que du coup, toi, tu t'impliques aussi dans ça?
J'essaye.
Dans le choix et tout ça?
Ah oui,
c'est
oui.
Quoi, c'est une coopérative?
C'est pour l'instant, c'est en train de se monter. C'est une initiative qui a 2 ans. Donc, c'est du bénévolat d'éleveurs qui participent à ça. Notre structure, elle est en cours de discussion, d'évolution. Mais du coup, on essaie de s'impliquer. Après, moi, je suis dans l'installation, alors j'ai du mal à être partout. Je suis ça, j'y suis quand je peux y être.
C'est
mais...
super, dis donc, c'est une belle initiative. Et c'est localisé où alors?
C'est localisé sur les Cévennes.
D'accord.
Ouais,
comment ça s'appelle?
Rayolaine. C'est parce qu'on est éleveur de race Rayol.
D'accord, et donc tous
coup,
la même race
voilà.
De mouton.
C'est la laine de la race Rayol qui est valorisée via ce Rayolaine qu'on peut retrouver du coup dans les magasins de produits. Chaque producteur est susceptible de vendre dans son magasin, dans son point de vente, ou sur les marchés, les foires, etc. Je vais prendre un petit portail internet.
D'accord, ok. Donc Rayolaine, R-A-Y-O-L-A-I-N-E, bien sûr.
Oui.
J'oscille, décile, entre tes bras câlins, j'oscille, facile de me laisser porter jusqu'à demain. Ma belle île, en devenant soudain d'Ariane, mon fil a clôturé tout mon jardin. Message fossile, pleuvait un peu demain, soleil qui brille, ne sèche pas tous les chagrins. Déprime en fil, ton pyjama satin bien mal habile, celui qui te retient. La saison, je suis au fait, je suis au balcon, je souris quand on me tond, oui je singe les moutons, je regrette le temps d'où des questions sans dessus ni fond. Une fois de plus, je reste là avec mes illusions perdues, un peu groggy, un peu nu. Quasi immobile, tout en prière tendue vers tout ce qui brille. J'espère, je ne pense plus. Curiosité, je ne suis plus moi-même depuis que tu m'as quitté. Je ne me reconnais plus. J'oublie de toi tout, laissez-moi. Mais je sais, je ne les aime pas. Je regarde à l'horizon, je sais si la saison je suis au fait. Je suis au balcon, je souris quand on me tombe. Oui, je singe les boutons, je regrette le temps d'où des questions sans dessus ni fond. Des questions sans dessus. Ce vent d'Espagne, combien de temps pour traverser les montagnes? Lequel des deux a le plus souffert? Suis-je vraiment le fils de mon père? Comment te dire ce que je ressens, si ce n'est que le goût du sang a traversé mon esprit plus d'une demi-fois dans ma vie? D'où vient donc ce vent d'Espagne? Combien de temps pour traverser les montagnes? Lequel des deux a le plus souffert? Suis-je vraiment le fils de mon père? Comment te dire ce que je ressens, si ce n'est que le goût du sang a traversé mon esprit plus d'une demi-fois dans ma vie? Je regarde à l'horizon, je sais, c'est la saison, je suis au fait. Je suis au balcon, je souris quand on me tombe. Et je singe les moutons, je regrette le temps d'où des questions sans dessus ni fond. Je regarde à l'horizon, je sais, c'est la saison, je suis en fête. Je suis au balcon, je souris quand on me tombe. Et je singe les moutons, je regrette le temps d'où des questions sans dessus ni fond.
Vous écoutez Les Enfants du Nouveau Monde sur Radio 16 et en ce mois de mars, avec l'arrivée du printemps, j'ai eu envie d'aller rencontrer un berger nomade, c'est Thomas Marcilly, qui travaille sur un regroupement de communes du côté de Anduze, Tornac, Les Ans, par là-bas. Et avec son troupeau, il se déplace de place en place, justement. Alors, le principe du berger nomade, c'est quand même super original. Toi, qu'est-ce qui t'a amené à ça?
Le principe du berger nomade, c'est reprendre ce qui traditionnellement s'est fait il n'y a pas si longtemps que ça encore, ce qui se faisait.
C'est ça.
Parce que même s'ils avaient des petites bergeries, ils se baladaient beaucoup avec leurs troupeaux sur des gros rayons. Donc je fais que répéter une tradition qui s'est un peu perdue, oubliée.
Tout à fait.
Mais je la répète par nécessité ou par manque de choix. Donc c'est aussi accepter une précarité, accepter un peu plus de travail, une moins bonne sécurité par rapport à mon troupeau et à moi.
Alors si je comprends bien, tu voulais être berger, t'avais pas de lieu, t'avais pas l'investissement, les moyens financiers pour investir dans un lieu pour pouvoir avoir ton troupeau en fixe.
Oui.
Du coup, cette solution-là est venue à toi, c'est ça l'histoire.
Exactement, on peut même revenir de plus loin, je voulais être éleveur et j'aurais peut-être aimé faire du lait, je me suis rapproché de plusieurs types d'élevage potentiel et puis la réalité à chaque fois me faisait revenir sur mon idée et petit à petit cette réalité elle m'a conduit vers ce système et vers les brebis. Donc c'est pas forcément une passion de départ, c'est vraiment plus subi. Voilà. Aujourd'hui j'en suis très content et je regrette pas du tout ces choix là, mais ces choix au départ ils ont été subis par j'ai envie de faire de l'élevage, bon qu'est-ce que je peux faire, comment je peux le faire, et ben, à force de chercher à répondre à ces questions je suis arrivé vers ça.
Alors aujourd'hui ça fait combien de temps que tu as ton troupeau?
Alors ça fait un an et demi que j'ai pu m'installer grâce à la découverte de l'association Grappe 3 et de viticulteurs qui cherchaient à faire nettoyer l'herbe qu'ils ont dans leur vigne en hiver de manière écologique et alternative à leur pratique.
Voilà, donc c'est un triple avantage ce système du berger nomade. Non seulement tes brebis ont leur nourriture offerte, une nourriture de qualité puisque toi tu es en bio et du coup tu ne vas que dans des terrains bio, en agriculture biologique. D'autre part, pour les viticulteurs, ça leur permet d'éviter les herbicides
et le
désherbage, du travail de désherbage.
D'une part, et le pétrole tout simplement, qui est un gros poste pour les viticulteurs bio où ils en utilisent, ils n'utilisent pas de pesticides. Alors c'est un paradoxe parce qu'ils ne polluent pas le sol mais ils polluent l'air.
Voilà, parce qu'ils n'utilisent pas de pesticides, mais comme ils sont amenés à passer le tracteur beaucoup plus souvent pour désherber, ils consomment énormément et donc polluent en termes environnementaux.
Voilà, c'est une question. Mais du coup, en cherchant à résoudre cette problématique, les viticulteurs, ils sont revenus à ce qui s'est fait il y a longtemps et ne trouvant personne capable de le faire ici, se sont dit pourquoi pas aider un jeune à s'installer.
Donc. On revient au bon sens traditionnel de l'agriculture.
Exactement.
Parce qu'en fait, l'élevage et la culture vont de pair.
Exactement. Moi, c'était vraiment le sens premier de ce que je voulais faire, de faire quelque chose, de faire des systèmes qui soient autonomes et de pouvoir pratiquer une agriculture autonome. Et du coup, c'est mélanger les cultures à l'élevage. De tout type de culture est compatible avec un type d'élevage.
Et le troisième intérêt de ce système du berger nomade, c'est aussi l'aspect amendement des terrains, puisque effectivement, c'est là où l'élevage et l'agriculture sont complémentaires, c'est que d'avoir des bêtes sur les terres, avec le fumier, elles nourrissent ces terres.
Donc. Oui, c'est mon premier argument. Si je dois démarcher des agriculteurs, mais ils le savent très bien et c'est quelque chose qui s'est beaucoup pratiqué avant que les engrais chimiques entre guillemets arrivent sur le marché. Donc c'est un énorme intérêt pour beaucoup et on appelait ça des nuitées autrefois. C'est le berger allait faire dormir son troupeau dans le jardin, dans la céréale des propriétaires qui leur prêtaient les terrains, et ils calculaient ça de manière très précise.
Les nuitées, tout simplement, parce qu'en fait, le moment où elles ont leurs déjections, c'est plutôt le matin au réveil. Donc, vaut mieux qu'elles aient dormi sur place pour pouvoir amender le terrain.
La brebis, la majeure partie du temps, c'est soit si elle est stressée, où elle va faire ses déjections, mais c'est surtout quand elle se lève, d'avoir ruminé, quand elle se lève le matin. Elle va faire ses besoins. Donc du coup, c'est à ce moment-là que c'est le plus intéressant de les avoir. C'est là où on les parque. Ce qui n'est pas du coup évident dans les cultures. Donc c'est à ce moment-là qu'elles en font le plus. Ça ne veut pas dire que dans la journée, elles n'en laissent pas.
Un peu, mais un nombre important. Le moment
le calcul productif,
c'est le matin.
Le calcul bête et méchant, c'est qu'une brebis va amener par jour 1,5 kg de fumure.
Quand même.
Donc c'est quand même pas rien. Et c'est pas uniquement quand elle se lève, même si c'est la majorité, parce qu'on le voit très bien quand même dans les vignes. Donc ces petits amendements sont quand même très importants, et en termes de biodiversité aussi, parce que ce qu'elles vont manger dans les bois, dans la garrigue, elles vont le ramener en déjection dans les terres où après on retourne. Donc,
c'est là où on retrouve tout le bon sens d'être en adéquation avec le cycle naturel de la nature.
Oui, et de se promener, parce que des jeunes qui me visitaient me disaient « Mais oui, mais vous polluez les nappes. » Oui, je pollue les nappes si je passe 3 mois ou un temps donné très court sur une zone très petite. Alors que le fait d'être nomade et de se promener, on n'a pas le temps de polluer. On amende. Là, on est vraiment dans
l'amendement, c'est l'enrichissement des sols.
Oui, avant que ça soit du trop, justement. Mm-hmm. On risque pas, d'ailleurs, de faire trop. Mm-hmm. Mais c'est la concentration qui serait pas bonne.
Le fait c'est donc pas un hasard si la pratique du berger, traditionnellement, c'est une pratique nomade.
Oui, et c'est aussi peut-être pas un hasard si c'est une pratique agricole qui subsiste encore. C'est qu'elle a encore du sens. Il y a beaucoup de pratiques agricoles qui ont complètement évolué, qu'on ne fera pas partir en arrière. J'ai peut-être pas d'exemple, mais dans nos pratiques de maraîchage, on a énormément évolué en bien, en faisant parce qu'on a réussi à trouver des outils mécaniques beaucoup plus précis qu'avant, même en traction animale, il y a des outils derrière qui deviennent. On arrive à être beaucoup plus technique, on arrive à avoir des très bonnes connaissances et de faire des superbes associations de culture. Et de pouvoir faire des semis sous couvert, ils appellent ça les céréaliers, qui arrivent à mettre un céréale et en dessous de leur céréale une autre culture qui en même temps va amender leur sol et qu'au moment où le céréale va être coupé prendra le dessus et fera un amendement en plus. Donc il y a des choses très techniques qu'on arrive à mettre en place qu'on a fait un peu de manière empirique au départ. Donc il y a plein de pratiques maintenant qui sont novatrices et qui sont très bonnes. On n'ira pas labourer à la charrue, même si parce qu'on a trouvé l'alternative, c'est le pétrole aujourd'hui, mais il y en a d'autres.
Mais du coup, pour le berger, on pourrait le voir un petit peu de la même manière, c'est-à-dire que garder le bon sens de la pratique ancestrale tout en y ajoutant la technologie, l'innovation et l'intelligence moderne. Oui. On peut le voir notamment, donc toi tu es berger nomade, mais tu n'es pas réellement nomade dans le sens où chaque nuit tu laisses ton troupeau sur un terrain temporaire, on va dire, et toi tu retournes chez toi parce que tu as une maison fixe. Exactement. Donc c'est pas simple pour toi, tu fais que de faire des allers-retours entre un troupeau qui est nomade et toi qui ne l'es pas vraiment.
C'est là ma plus grosse limite, c'est que mon troupeau est nomade et pas moi.
Contrairement à ceux qui sont vraiment nomades jusqu'au bout, par exemple un berger qui pourrait vivre en camion et qui pourrait suivre son troupeau, dormir au milieu de son troupeau la nuit et là qui assurerait un peu plus de sécurité, un peu moins de précarité.
Exactement. Alors que de l'autre côté, les gens vont vous regarder parce qu'il y en a qui ont une caravane et qui vivent comme ça ou dans des camions, et les gens ont tendance à dire qu'ils sont précaires, mais ils sont bien moins précaires que moi où j'ai ma petite maison, mon petit chez moi, mais qui est pas toujours trop proche de mon troupeau.
Et comme tu disais, tout ton troupeau c'est tout ton capital, donc voilà, quand tu t'en vas,
Tous les soirs. Donc quelqu'un qui a les idées mal placées et qui est assez culotté pour venir avec un camion et un chien en quelques minutes me met sur la paille et m'enlève tout. J'ai pris des mesures que je ne vais pas vous détailler pour que ça soit compliqué de le faire, mais on n'est pas à l'abri d'un fou. Alors que celui qui dort à côté, et c'est ce qui se faisait pareil il y a longtemps, qui était très précaire pour les bergers, parce qu'ils dormaient dans
Qu'avant, ils dormaient dans des boris, ils dormaient dans la nature. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir avoir
on a des panneaux solaires qui fonctionnent bien, on a les moyens de pouvoir être à côté.
Un habitat nomade très confortable.
Exactement.
Donc, avec un camion aménagé, une caravane, etc.
Un berger qui est prêt à accepter ça, sa précarité, elle sera plus sociale. Est-ce que derrière, il y a une compagne qui a envie de changer d'emplacement tous les 15 jours, ou un petit garçon, ou une petite fille, un enfant qui
a envie d'être élevé sans école.
Voilà, ou alors qui est un jour il est à côté de l'école, l'autre jour il doit faire 10 minutes, une demi-heure de voiture. Ça, donc c'est peut-être ça la précarité. Mais
ça invite aussi à des changements dans nos vies qui peuvent être aussi très joyeux.
Ah oui, moi je trouve ça très sympa.
Après, ce qui peut être difficile, c'est le regard de la société. Exactement. Que la société porte sur ces nouvelles pratiques.
C'est facile à dire, mais dès qu'on est différent des autres, on est forcément moins bien qu'eux, ou pas bien compris, ou on doit en tout cas un petit peu aller s'expliquer que on est tous pareils et qu'on a tous des besoins primaires qui sont égaux. Mais on n'est pas des manouches, même si ça devrait pas être péjoratif de dire ça, mais on nous regarde un peu comme ça, ces gens-là. Donc,
Ils sont pas sérieux, ces jeunes.
Ouais, alors que pareil, peut-être que cette précarité, ils l'ont choisi quand même, mais c'est aussi par manque d'autres opportunités qu'ils ont eues. Et puis, on n'est pas si mal autour de nos bêtes, donc ils le vivent bien, ces gens, j'en suis persuadé.
Toi aussi, tu le vis bien ?
Moi, je le vis bien, je le vis mal d'essayer de faire quelque chose d'intelligent et d'avoir ma première charge, c'est l'essence que je mets dans ma voiture pour me déplacer. Et c'est là mon plus gros poste.
T'aimerais vivre en nomade, toi ?
Oui et non. Je veux les avantages des deux. Non, j'aime bien avoir mon potager, mon jardin qui bouge pas.
D'accord.
Et puis mon petit garçon est content d'avoir ses copains à l'école. Côté du portail, donc donc c'est compliqué. Mais c'est pas indissociable. C'est important de le dire.
Faut voir comment ça se définit dans le futur, après, comment ça avance.
Chacun y met ce qu'il veut derrière et où on met nos priorités, nos envies, etc.
T'avais quoi comme parcours, Thomas, avant d'avoir envie d'être berger ? Qu'est-ce que t'as fait ?
J'ai démarré ma vie active dans la restauration. J'ai commencé par faire un apprentissage en pâtisserie, après à vivoter autour de la pâtisserie. Puis après, je me suis rendu compte que c'était pas trop mon truc. Alors, je suis allé dans la cuisine, dans la restauration, différents types de restauration. Et j'y prenais du plaisir à le faire, mais je me suis vite rendu compte que la majorité de mes collègues, ben, ils faisaient ça pour manger, justement. Mais pas par réel plaisir, ou en tout cas pas du tout tous les jours. Et dès mon apprentissage...
Ils n'étaient pas heureux dans leur travail.
Non, du tout. Dès mon apprentissage, j'avais un collègue qui était le plus jeune de l'entreprise après moi, et qui était capable de te dire quasiment au quotidien combien de jours le séparait de la retraite. Alors, c'était des chiffres astronomiques, mais je trouvais ça fou de me dire, ce mec-là va pas vivre pendant 42 ans parce qu'il compte...
C'est super déprimant.
Et moi, ça m'a vraiment mis un gros coup en me disant, mais c'est pas ce que je veux. Et puis, je suis tombé sur cette personne-là en me disant, bon, bah, c'est peut-être quelqu'un en marge, il représente pas les autres. Puis petit à petit, je me suis rendu compte que non, c'était pour moi une majorité de gens. Ils travaillaient en attendant le week-end, ils travaillaient en attendant la fin du coup de feu, etc. Et moi, très vite, je me suis dit non, moi, je veux faire un travail que j'aime et ne pas le faire quand j'aime pas, pour être sûr qu'il soit toujours bien fait aussi. Parce que je me suis rendu compte qu'avec une bonne recette, on peut faire manger n'importe quoi aux gens et à toute catégorie sociale. Il faut pas croire, mais...
Qu'est-ce que tu veux dire par là que...
Je travaillais à Strasbourg, donc on était amené à voir des gens haut placés, très responsables, et se rendre compte que c'était très joli comment c'était présenté, mais leurs aliments n'étaient pas...
De qualité.
Pas du tout, mais on savait très bien le faire.
Donc toi, ce que tu as eu envie, c'était de faire justement quelque chose de qualité.
Ouais, j'ai remonté la chaîne, je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui m'attirait depuis enfant, et que j'ai toujours pratiqué un peu en parallèle. Oui, je voulais mettre du sens dans ce que je faisais et remonter la chaîne. Je suis gourmand, je veux avoir un bon produit et il n'y a pas mieux que de le faire soi-même.
Salut, cow-boy, il faut que je te cause. Je tourne en rond dans cette loge, dans ce vieux paradis. J'étouffe, c'est étroit, fais-moi sortir d'ici. Ce luxe me donne froid. Allez, cow-boy, viens m'enlever. Prends-moi dans ton lasso au son des pistolets. Salut, cow-boy, il faut que je te dise. Une idée noire me rend la mine grise. J'ai le baume au cœur qui fuit, qui m'abandonne. La corde et la potence dans ma tête résonnent. Allez, cow-boy, viens me sauver. Joue-moi ton numéro, ton foulard sur le nez. Mais ce soir sur mon rat d'acier, je laisse là tous mes froufrous. Ce piano seul dans la fumée et je m'en fous. Emmène-moi. Écoute, cow-boy, il faut que tu piges de cette fleur. Tu n'auras que la tige, encore un peu jolie. Arrache-moi de là, j'ai pas encore tout dit. Je vais perdre mon sang-froid. Et cavallero, viens m'emporter. Fais claquer les sabots, fais crier ton mulet. Ce soir sur mon rat d'acier, je laisse là tous mes froufrous. Ce piano seul dans la fumée et je m'en fous. Emmène-moi. Tu vois, cow-boy, je rêve encore d'un western en rose, de défier le sort. Empoigne-moi très fort, faut pas que tu me lâches. Attache-moi à ton corps, faut pas que tu me gâches d'une air Zorro. Viens me ravir, partons au galop. Il est temps de s'enfuir.
Oh, oh, take it slow. I'm not someone for you, don't you think so? We don't live in the same world, we're not playing the same show. Hey, Jinder, do you want me to be the one for you? Hey, so-
C'était la meute rieuse sur Radio 16 avec Cowboy. Nous, dans les Enfants du Nouveau Monde, on est en compagnie non pas d'un cowboy, mais d'un berger, Thomas Marcilly, un berger nomade qui plus est. Hein, comme on n'en trouvait plus. Le projet La Vigne Belle associe berger et viticulteur pour un désherbage naturel où chacun trouve son compte. Ça revient finalement, le bon sens.
Donc moi, ça me permettait de rentrer dans une dynamique collective et pas de m'installer tout seul dans mon coin avec une problématique.
Ouais, tu viens vraiment apporter le chaînon manquant aussi aux exploitations des uns et des autres.
Oui, j'espère. Et puis, en tout cas, je travaille avec eux ou eux travaillent avec moi. Et du coup, c'est pas forcément évident pour tout le monde parce qu'il faut qu'on soit tous sur les mêmes idées au même moment. Mais ça fonctionne très bien. Au départ, c'était un petit peu difficile et j'ai pris des gros risques en m'installant parce qu'il n'y avait pas grand monde. Tout le monde attendait de voir est-ce que le jeune fait ses preuves. Mais aujourd'hui, des vignes, j'arrive pas à aller dans toutes les vignes qu'on propose.
Aujourd'hui, il y a trop de demandes d'exploitants viticoles ou autres qui ont besoin de venir entretenir leur terrain.
Exactement, qui attestent que la pratique peut être bonne si elle est bien faite. Et au moment où je peux bien la faire, j'arrive pas à aller partout.
Répondre donc, à la demande.
Voilà, donc moi, je suis dans un moment où je réfléchis à soit essayer de s'associer, même si c'est compliqué et contraignant, ou au moins que d'autres puissent faire la même chose.
S'installer.
Parce que c'est possible, c'est précaire, c'est des risques pour tout le monde, pour le viticulteur aussi, mais c'est possible, il y a beaucoup de possibilités.
Donc du coup, grâce à ton expérience, tu fais un peu de parrainage et puis tu aides certains qui aimeraient s'installer en leur donnant les tuyaux et l'expérience par laquelle toi tu es passé.
Alors, j'ai pas encore la prétention de dire que j'ai de l'expérience parce que j'ai pas un énorme recul.
Ne serait-ce que de s'être lancé.
Mais voilà.
Parce que, comme tu disais, c'était quand même courageux d'oser se lancer, sachant que t'étais quasiment sûr que sur les 3-4 premières années, t'arriverais pas financièrement à tirer ton épingle du jeu.
Oui.
Donc, c'est travailler tous les jours de façon à perte pendant 4 ans, avec juste la foi vissée au corps que ça va fonctionner et qu'à un moment donné ça va être rentable.
Oui.
Donc rien que ça, c'est déjà une...
Voilà, mais c'est ce que je finis souvent par dire à des gens qui voudraient faire la même chose, que c'est possible, qu'ils peuvent trouver vraiment des gens avec qui le faire, que c'est de la communication, et c'est voir est-ce qu'il y a le feeling entre tous ces gens, est-ce qu'il se passe quelque chose et que tout le monde peut se faire confiance. Mais ensuite, c'est moralement comment tu vas supporter la précarité dans laquelle tu vas te lancer, comment toi tu vas la supporter, éventuellement ta compagne, ta vie sociale autour, comment tu vas réussir à accumuler tout ça. Donc c'est pour moi là le...
C'est là le plus dur.
Ouais,
c'est ce qui est le plus dur.
C'est vraiment là le plus dur. Mm-hmm. Après, c'est une pratique où moi, on l'a dit, j'ai rien inventé parce que je reproduis quelque chose qui s'est fait, mais d'autres le font aussi dans d'autres régions ou pas très loin d'ici non plus. Et du coup, je suis allé les rencontrer, les voir, discuter un peu avec eux. Ils m'ont presque dit la même chose que ce que je vous dis aujourd'hui.
Et est-ce qu'eux ont une expérience plus longue qui fait qu'aujourd'hui, ça tourne pour eux et qu'ils sont rassurants sur le fait de dire « tu vois, c'était long, mais quand même, maintenant, je suis heureux d'avoir fait ça, quoi, ça fonctionne. »
Je dirais oui et non. J'ai pas fait non plus... je suis resté que sur un secteur très restreint, donc il y en a plein que j'ai pas rencontrés. C'est quelque chose qui fonctionne, ça très vite je m'en suis rendu compte, qui était viable à long terme et qui était intéressant socialement. Après, ces gens-là sont aussi dans une forme de précarité. Et tant que ce système nous fait jongler là-dessus. Donc à partir du moment où on l'accepte et on est au courant de ces risques-là, c'est plutôt comment on arrive à...
Alors quels sont-ils justement les risques, si on les énumère?
Les risques, c'est d'être soumis aux aléas climatiques, d'être soumis aux aléas des gens plus ou moins bienveillants.
Oui, parce que du coup, ce sont que des petits filets temporaires qui peuvent s'enlever rapidement.
Voilà, c'est facile d'ouvrir, c'est facile de voler un agneau. Enfin, c'est facile, faut-il toujours avoir les jambes pour,
oui.
Ça se fait quand même bien plus que ce qu'on pourrait imaginer. Et puis juste ouvrir pour rigoler et qu'il y a une culture en face où les troupeaux, en quelques heures, peuvent ruiner la culture qui est en face, donc ça peut aller très vite. Donc se fâcher avec les gens qui nous... Et on est propriétaire uniquement du troupeau. Donc se fâcher pour X raisons avec les mauvaises personnes peuvent nous mettre du jour au lendemain à la rue.
Oui, d'accord. Donc là, on comprend bien effectivement la fragilité de la situation.
Il y a une fragilité et c'est... Voilà, tout le monde s'engage, ça ne veut pas dire que l'engagement n'est pas gravé dans le marbre.
Tout à fait.
Et après, autant pour moi, peut-être qu'un jour, ça m'emmerdera d'aller dans les vignes, je ne sais pas. Mais on est tous dans nos problématiques.
Et alors, du coup, ce paradoxe de, d'une part, il y a beaucoup de demandes, trop d'ailleurs, à laquelle tu ne peux pas faire face, et d'autre part, tu n'arrives pas à t'en sortir financièrement.
Oui, c'est un paradoxe. Ben, il fallait bien s'installer par un bout et, entre guillemets, limiter le risque de mon expérience et des terrains qu'on mettait à disposition au départ.
Mais comment tu l'analyses, ce paradoxe? C'est lié à quoi? C'est lié au fait que le prix de la viande n'est pas assez élevé?
Oui.
C'est lié à quoi? Parce que comme tu me disais tout à l'heure, si tu avais voulu pouvoir te dégager ne serait-ce qu'un petit salaire dès le début, il aurait fallu que tu attaques avec un troupeau de 2000 bêtes.
Non, je veux dire, ou de je sais pas combien. Avec 250 brebis et avoir 200 agneaux à vendre.
C'est donc le double, plus du double de ce que tu avais.
Cette année, je vais vendre 30 agneaux. Il faut que j'en vende 200 minimum pour pouvoir me sortir un revenu. Il
faudrait que tu vendes 200 agneaux par an pour pouvoir avoir un revenu à peu près correct toute l'année.
Voilà, que je puisse arriver à me rapprocher d'un SMIC.
Donc effectivement,
ça, c'était
c'est beaucoup.
Très difficile. Enfin, pour moi, c'était pas possible dans mon système au départ. Ce qui fait que... Mais j'ai jamais trouvé mieux et j'ai pas vu grand monde qui a réussi à faire mieux, à moins que tu aies repris le système de tes parents et que tu aies moins d'investissement que ce qu'on peut avoir au départ.
Et est-ce que c'est possible à terme d'avoir un troupeau assez grand en nomade pour avoir 200 agneaux à vendre chaque année?
Bien sûr, c'est possible, c'est pratiqué.
D'accord.
Les systèmes qui sont plus dans les Alpes et après en hiver, ils descendent dans les préalables ou dans la...
Oui, mais par chez nous.
Alors, par chez nous, le système, notre région et notre topographie fait qu'on peut pas arriver avec des troupeaux de 2000 bêtes.
Moi,
c'est sûr qu'arriver déjà avec 400 bêtes au plus grand, quand j'aurai les agneaux et les brebis, ça va déjà faire du monde. Dans certaines parcelles, ça sera plus la peine que j'y passe. Donc, ça me forcera à repenser ou à redéfinir les limites du circuit. Mais c'est complètement possible, c'est pratiqué. Ceux qui sont autour, il n'y en a pas tant que ça, mais ceux qui en vivent, c'est leur moyenne. Mmh. Après, est-ce que... pour moi, c'est un petit peu le système agricole qui nous a poussé à faire des entreprises agricoles et être exploitants agricoles et à tirer un maximum de profit avec un maximum de bêtes. C'est un petit peu le travers dans lequel on est... J'ai pas envie de partir dans quelque chose à grande échelle ou qui pour moi est du coup plus vraiment de l'agriculture. J'ai pas envie de faire de l'industriel. Et du coup, derrière, les institutions, pour pas les nommer, font pas trop confiance à ce système-là parce que c'est pas ça qu'on a prôné, qu'on a enseigné et qu'on défend aujourd'hui.
Justement, du coup, toi, quand t'as voulu t'installer, t'es passé un peu pour un doux rêveur. T'as pas bénéficié de l'appui de toutes ces institutions qui aident à l'installation.
Oui, puis pour eux, c'est un retour en arrière. Ce qui est vrai dans la pratique, hein. Mais ça veut pas dire qu'on peut pas en vivre et qu'il faut pas prendre les choses par un bout. Moi, je les vois, ils sont devant un paradoxe, parce que d'un côté, ils vont nous dire que l'agriculture vieillit, qu'on trouve pas des jeunes, on trouve pas de repreneurs, on a vraiment un gros malaise, là, il y a toute une génération qui part à la retraite et plein de jeunes qui reprennent pas. Mm-hmm. Et de l'autre côté, je fais partie d'une génération, on vient pas du milieu agricole, tout juste on vient d'un milieu rural. Donc on connaît pas tout, on veut faire notre révolution à nous et on veut pas reprendre les vieux systèmes, on veut créer les nôtres. Et du coup,
surtout travailler dans plus de respect de l'environnement, plus de respect.
Je pense qu'on est plus sensibilisé un petit peu parce qu'aujourd'hui on l'a sous les yeux, le changement climatique ou d'autres problématiques. Donc on est peut-être plus sensibilisé ou obligé de l'être. Ou peut-être plus raisonné, et du coup on a du mal à se projeter dans les vieux systèmes, donc à reprendre aussi ces fermes là et puis financièrement le prix du foncier a tellement explosé que c'est pas envisageable du tout, à moins d'arriver avec des capitaux énormes.
Vous n'êtes pas crédible auprès de ces gens qui ont posé un modèle et qui souhaitent que ce modèle perdure, alors même qu'ils savent que ça crée des conséquences désastreuses en termes environnementaux et à plein de niveaux.
Mais après, ils pourront répondre à juste titre que Moi, pendant 3 ans, je vis de quelques droits au chômage que j'ai eus et peut-être du RSA, mais
que c'est pas viable.
Mais voilà, c'est vrai que 3 ans, c'est pas viable. Et c'est vrai. Après, ça veut pas dire qu'on peut pas le faire. C'est pas parce que financièrement je me dégage pas de salaire que je.
Faut accepter une grande sobriété et un grand courage. Quoi.
Ouais, je pense. Et sinon, on fait rien, je veux dire. Mmh. Ou alors, parce que celui qui a réussi à débloquer des crédits à une banque, pour moi, n'est pas plus fiable. Celui qui a un emprunt énorme à rembourser est tout autant précaire. Moi, aujourd'hui, si je devais me casser la figure, je revends mon troupeau et je dois rien à ma banque. Donc,
tout à fait.
Mmh. Voilà, c'est. C'est remettre là. Je me sens pas plus précaire que quelqu'un qui a fait un énorme emprunt pour se faire un bâtiment.
Je comprends tout à fait. Du coup, t'as pas bénéficié de l'aide au démarrage des institutions conventionnelles et officielles de l'agriculture. De qui as-tu reçu de l'aide ? Toi, t'as trouvé une espèce de formule assez originale et pionnière, on va dire, qui fait que t'es pas forcément très bien compris partout où tu passes. Tu veux nous en parler? Alors, avec voilà. Une couveuse agricole.
Alors voilà, il y a d'une part, du coup, pour le démarrage, on a fait du financement participatif.
Donc une campagne de financement participatif pour te donner les moyens...
D'acheter une partie du troupeau et du matériel. On savait pas trop dans quoi on mettait les pieds. Et
donc ça, en gros, c'était quoi? Kiss Kiss Bank Bank sur Internet?
Kiss Kiss Bank Bank, et puis après, c'était... directement, on centralisait si les gens n'étaient pas à l'aise avec une plateforme, pouvaient faire un don directement.
Et alors, grâce à ça, tu as pu récolter.
Donc, grâce à ça, on a acheté l'intégralité du troupeau, on a récolté à peu près 17 000 euros.
Donc ça a très bien fonctionné.
Ça a très très bien fonctionné. À ça, après, faut enlever les frais de la plateforme KissKissBankBank, les frais de communication et les contreparties que les gens ont eues, parce que les gens avaient une petite contrepartie quand même. Par rapport à leur don, mais ça a très bien fonctionné. Ça...
Qui était, pardon, la contrepartie?
Alors la contrepartie, ça dépendait du montant du don, c'était 30% de la montant du don en bon d'achat sur la viande qu'ils m'achetaient.
D'accord.
Et puis après, il y avait des lots avec du vin, des viticulteurs, etc.
Ok. Et qui t'a aidé pour monter ce financement participatif?
Alors, le financement participatif, donc je suis allé voir plusieurs personnes, il y a l'association Grab 3 qui m'a aidé à le monter, l'animer et faire la communication. Et après, pour plus la partie technique et financière, faire mon bilan prévisionnel, voir un peu comment et de quelle manière je pouvais m'en sortir, je suis allé voir la DERG. Oui, qui m'ont aidé là-dessus et avec lesquels j'ai fait quelques petites formations. Et ensuite, pour par rapport à mon statut, qui est toujours la grande question, quel statut je vais prendre, quel régime je vais adopter. Pour l'instant, j'ai fait le choix de pas le faire.
T'as fait le choix de pas faire de choix.
Voilà. du coup, de signer ce qu'on appelle un contrat cap avec une couveuse agricole qui s'appelle Coup de Pouce, qui me permet justement de tester mon activité.
Pendant
un an renouvelable deux fois, donc 3 ans si les deux parties ont envie, qui me permet réellement, sous leur administration, sous leur regard, de tester la viabilité de mon projet. Ça me permet, alors du coup, c'est parce que j'ai pas fait une installation aidée classique que je peux y prétendre, mais je pense que j'allais au casse-pipe à leur demander, je pense que j'aurais eu un refus. Parce que j'ai bien vu qu'il n'y avait pas un réel enthousiasme pour mon projet, et j'espère que peut-être...
Au sein de la couveuse ?
Non, au sein de la chambre d'agriculture.
Ah oui.
Je ne voulais pas trop aller devoir ramer ou me battre pour leur dire que mon projet était viable. Je ne sentais pas la force de le faire.
Bah oui, envie d'être soutenu par des gens qui de suite comprennent l'intérêt et le bon sens du projet.
Soutenant,
voilà, et non pas jugeant et jaugeant.
Qu'il faille une alternance et qui me fasse pas subir. Voilà, j'ai besoin plus d'être aidé ou soutenu, conseillé, que d'être dévalorisé
dans la
pratique.
Évidemment.
Donc ça, c'était la première chose. Et ensuite, je me disais, si je fais deux ou trois ans d'essai et qu'après je viens, j'aurai déjà un petit bagage, un peu plus de perspective pour montrer voilà ce que je fais, voilà où je vais et ça fonctionne de telle manière. Donc j'aurai peut-être plus de capacité d'aller négocier avec quelqu'un. pour faire évoluer mon projet.
Mmh, ouais, tout à fait. Donc du coup, ils remplissent bien leur rôle, cette couveuse agricole qui s'appelle ?
Alors, il s'appelle coup de pouce, pouce comme faire pousser.
Ah oui, et ils sont où ?
Alors, ils sont basés à... Le bureau est à Saint-Nazaire-des-Gardies sur le domaine de Poëchelon. Et après, ils ont des terres agricoles sur Barjac.
D'accord, donc coup de pouce, coup comme de pouce, une pouce.
Voilà, on les trouve facilement sur Internet ou dans D'accord. les différentes associations alternatives pour, où ils viennent faire des interventions pour
très bien.
Expliquer. Alors, c'est des initiatives qui sont très récentes, qui font que...
Elles ne rentrent pas forcément dans les cases.
Voilà, on est toujours hors case, enfin souvent, même si les institutions sont censées les connaître. Mais qui nous garantissent un soutien juridique, moral et technique. Et puis moi, ça me permet de, quand, moi j'ai la tête dans le guidon, d'avoir quelqu'un au-dessus de moi qui puisse me faire relever un petit peu et me
Bien
dire
sûr.
Ça tu l'as peut-être pas vu, etc.
Juste, je fais une petite parenthèse, l'ADARG, c'est l'institution qui aide à s'installer les agriculteurs
voilà,
en bio, hein, c'est ça?
Pas forcément.
Ah non?
Même s'ils en font beaucoup. C'est une association qui est là pour proposer des formations que d'autres organismes ne proposent pas par rapport à l'agriculture, bien sûr. Aider les jeunes à s'installer, ça fait partie de leur principe. Aider les cédants à trouver des repreneurs, c'est un petit peu l'alternance de notre système agricole.
La logique du pourrissement, c'est la blessure qui s'infecte et le microbe qui se délecte. Quand se rengorge la gangrène, c'est la fissure qui rigole et la rigole qui se fend la gueule. C'est la chaussure qui prend l'eau, la peinture qui s'écaille, la moisissure prend ses aises. La logique du pourrissement, c'est la chemise qui se fait la malle, la redingote qui est en crise. D'avoir été beaucoup porté, souillé, lavé, retourné. Et la couture n'en peut plus, la crise abuse de la reprise. Un petit point de chaîne à droite, un petit point de croix à gauche, petit point d'arrière devant, un petit point devant derrière. La logique, c'est la centrale qui pisse la mort, et la rivière a mal au froid. C'est l'écrevisse qui rend l'âme et l'arbre à pain qu'à la blouse. C'est le coco en berlingot, c'est pour bientôt je vous le dis. C'est la corde de la Mérignam qui étrangle la Mérignam. La logique du pourrissement, c'est une cité qui s'emmure dans une névrose de béton. Les oiseaux glissent à la dérive, les PV jouent aux feuilles mortes, les flics engraissent leurs pavillons, la ville a mal aux entournures. La logique du pourrissement, c'est quand s'encombre le sinus et que la conserve a ras-le-bol. La boîte gonfle et puis se mouche et les débris qui s'amoncellent en des dégaines du sinistre. C'est un destin qui se marchande, un champ d'amour qu'on hypothèque. L'espoir trimballe au bout de poisse et la psy se fait son beurre quand les neurones se font de la bile. On vend de la foi à tour de bras et les gourous ont le bras long. On paie des gants pour tuer la peur des agences du nirvana. Le père Noël s'internétise et la culture se macotise. Les jeunes chevauchent dans leur ghetto, le paradis de la défense. Le diable solde ses miroirs et la folie pétrit ses jours en sifflotant tonnerre de centre. La logique du pourrissement, c'est dans le swing de cette logique d'un soir de mercredi décembre justement. Un épiphénomane travaillant du chapeau au milieu de macadam vague près de la madame paumée me confia qu'il avait conçu entre deux ulcères d'estomac une prodigieuse dialectique pour consacrer le porissement, supralogique du porissement, métaphysique du porissement et poétique du porissement, celle d'un néophénomène merveilleusement identique à lui-même, debout, dans le fumier de l'absurde.
C'était Joby Barnabé avec la logique du pourrissement que l'on voit aujourd'hui à l'œuvre dans tous les domaines. Un pourrissement fertile d'ailleurs, comme le compost qui donne naissance aux belles initiatives que je vous fais découvrir dans Les Enfants du Nouveau Monde.
Bon ben voilà, on se quitte dans le bruit des cloches avec tous les moutons qui nous suivent jusqu'à l'autre bout du parc.
La colonne blanche.
C'est magnifique. Et c'est vrai que ça donne un petit avant-goût de ce que ça doit être de se déplacer tout le temps avec ses moutons.
On n'a pas une culture ou une route où on doit faire jouer du chien pour faire des bords de moisson. Mais c'est pour ça que je comprends pas les mecs qui transhument en camion, à part par facilité. Tu sais, mais c'est tellement chouette de
transhumer à pied.
T'as rien à faire, tu marches.
C'est beau, hein, c'est magnifique. Hein.
Et là, ils vont être très déçus parce qu'ils vont être confrontés à la fin
au filet et à nous qui sommes capables de l'enjamber. C'est là qu'on vous laisse.
Salut
les filles, à tout à l'heure. My gang will get you.
Retrouvez les enfants du Nouveau Monde tous les lundis, une semaine sur deux, le matin ou le soir, soit 8h30, 9h30, soit 18h30, 19h30 sur Radio 16. Toutes les émissions sont également écoutables quand vous voulez sur radio16.net.